Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui l'artiste et musicien Gilles Bingisser. Gilles est artiste sétois. Nous le rencontrons dans son atelier. Gilles est à la fois peintre, musicien, mais aussi organisateur d'expositions. Il tient ensemble avec d'autres artistes à Sète un lieu qui s'appelle l'Atelier, qui accueille régulièrement des expositions collectives. Avant notre rencontre, écoutons tout d'abord une pièce sonore qu'il a diffusée à l'occasion d'une performance qu'il a faite le 3 décembre dernier à la Chapelle Haute à Sète. Et cette pièce sonore s'appelle « J'aimerais ».
J'aimerais tellement que ce soit intelligent, que ce soit réfléchi, mais pas seulement. Je voudrais que ce soit aussi sensible et ressenti, et discret, mais pas trop. J'aimerais tellement que ce soit beau, interminable, mais pas monotone. J'aimerais tellement que ce soit gai. Je voudrais que ce soit gai, mais pas potache. Si seulement ça pouvait être joyeux, j'aimerais tellement que ce soit doux et soyeux. Et rond aussi, je voudrais que ce soit rond. Si ça pouvait ne pas être blessant, ça serait bien. J'aimerais tellement que ce soit amoureux. Oui, c'est bête de dire ça, ça fait nunuche. Je voudrais pas que ce soit nunuche, cucu la praline. J'aimerais tellement que ce soit fin, délicat mais pas prétentieux, pas pédant. Pas trop distant non plus, je voudrais que ça soit proche, serré, plutôt impliqué, plutôt concerné, mais pas revendicatif, pas militant. Si seulement ça pouvait être lent et soutenu. Et j'aimerais aussi que ça soit précaire, mais quand même solide par endroits, tendu et souple à la fois. Je voudrais que ce soit nuancé, pas monolithique, tendre. Je voudrais que ce soit tendre. Mais pas chauchote, pas pleurnichard. J'aimerais tellement que ce soit ouvert. Je voudrais pas que ce soit exaspéré, fatigant, ni vertigineux d'ailleurs, ni épuisant. Si seulement ça pouvait être métaphorique. Mais pas métaphorique tarabiscoté, métaphorique joueur et gai. J'aimerais tellement que ce soit primitif. Mais pas simpliste. Peut-être un peu précieux, mais pas prétentieux. Et aussi inachevé, mais prometteur. J'aimerais tellement que ce soit polysémique et raffiné. Je voudrais que ce soit minimal parfois, mais pas arrogant. Pas un minimal arrogant, un minimal funky. Je voudrais que ce soit doux et dilaté, mais surtout pas court et vieillissant, non, pas court et vieillissant. J'aimerais tellement que ce soit interminable, lent, mais pas poussif, fusionnel, ça serait bien aussi, fusionnel et transcendant. Je voudrais que ce soit fleuri en tout cas, mais pas trop girly. Je voudrais que ce soit infini, rond, soyeux et amoureux. Ça pouvait être absent parfois, abandonné, régressif, obscur, mais pas abscon. J'aimerais tellement que ce soit héroïque, mais pas sentencieux, d'un héroïsme affecté, dévoué, surdéterminé, mais pas ostentatoire, pas matamore. Je voudrais que ce soit bleu, bleu et chorégraphié, parfois mou, parfois dur, parfois devant, parfois derrière. J'aimerais tellement que ce soit intelligent, plutôt dansant, mais pas trop festif. J'aimerais tellement que ce soit inquiet, concerné, construit et déconstruit en même temps, si seulement ça pouvait être sublime, bien sûr, forcément sublime. Démesuré, amoureux, fragmentaire, délabré, chouïa, émotionnel, chouïa. Pas trop fier à bras, quoi. Libre et conceptuel. Je voudrais que ce soit intentionnel aussi, réfléchi et intelligent. Mais un peu déconnant, parfois. J'aimerais tellement que ce soit habité. Irréversible et définitif, radical, mais aussi souple et humain. Oui, c'est ça, je voudrais que ce soit opaque et clair à la fois. Je change d'avis, je voudrais que ce soit transparent, invisible et énigmatique. Non pas énigmatique, mais éblouissant et frontal, en tout cas pas brutal. Ça pourrait être contextuel, mais adaptable et musical. Je ne voudrais pas que ce soit douloureux et défaillant, j'aimerais tellement que ce soit allégorique et matinal. Surtout pas crépusculaire, ni vieux, ni vieillissant. Si ça pouvait être cohérent aussi, cohérent et intuitif. Je voudrais que ce soit intelligent, j'aimerais tellement que ce soit intuitif et réfléchi, oui, cérémoniel aussi, et printanier. Mental et flottant, surprenant et efficace, j'aimerais tellement que ce soit flottant, cambré et mélancolique. Mais pas mélancolique triste, plutôt mélancolique joyeux et amusé. Je voudrais pas que ce soit pesant, mais profond quand même. Ça pourrait être indécis et directif aussi, sexy peut-être, mais j'en suis pas sûr. Plutôt intérieur et concentré, j'aimerais tellement que ce soit beau. Je l'ai dit ça, que je voudrais que ce soit beau. Bref, si ça pouvait être enthousiaste et aérien, abrupt et inaugural aussi, inventif et surprenant. Si ça pouvait être amazing, oh, j'aimerais tellement que ce soit amazing. Je voudrais pas que ce soit oppressant, vertical et autoritaire, mais plutôt tendre et attentionné. Empathique et bienveillant, occasionnellement, mais surtout beau, bleu, rond et soyeux, savoureux. J'aimerais tellement que ce soit floral. Présent, mais pas didactique, j'aimerais tellement que ce soit intelligent et beau. Dilettante et clairvoyant, j'aimerais tellement que ce soit extraordinaire et nul à la fois. Ça pourrait être humble mais excitant quand même, magique mais pas incompréhensible, mystérieux mais pas ésotérique, solitaire mais pas désespéré. J'aimerais tellement que ce soit propre et carré, mais pas trop propre et pas trop carré non plus. Élogieux, surgissant, disruptif, oui, je voudrais que ce soit disruptif. Mais un disruptif franc, pénultième et naïf, ou antépénultième et visionnaire. On pourrait dire « it's so cute ». Ah oui, « so cute », c'est pas mal ça. Ça pourrait être postural, planant et réconfortant. J'aimerais tellement que ce soit optimiste et illusoire. Je voudrais que ce soit grave et cocasse, immédiat et inactuel. Ah oui, cool, j'aimerais que ce soit cool. Affirmatif et gratuit aussi, si ça pouvait être lumineux et ingénu. Mais je voudrais pas que ce soit malhonnête. Précis, mais pas cynique. Je change d'avis, je voudrais que ce soit cynique et indolent. Philosophique, pourquoi pas, poétique à coup sûr. J'aimerais tellement que ce soit intelligent et beau, j'aimerais tellement ça.
Bonjour Gilles, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui.
Salut,
ici.
Nadia.
Alors on est à ton atelier, on est entouré d'objets qui sont très colorés.
Oui, ouais. Beaucoup de couleurs, oui.
Très pop.
Alors oui, peut-être c'est pop, oui. Ouais. C'est le fait de mettre des couleurs de suite, ça fait basculer ça dans l'histoire de l'art sur quelque chose qui serait plus pop art, oui. Mais... c'est aussi l'idée de pouvoir travailler autour d'un motif décoratif qui est le palmier en fait. Moi, j'aime bien travailler autour de motifs décoratifs. Le palmier qui décore les villes et qui est là pour une sorte de décoration, un peu comme les lampadaires et les bancs publics. Et donc je récupère ce motif décoratif et j'essaye de travailler autour de ça. Alors, sous forme de pochoir, sous forme de dessin. Il est placé un petit peu partout comme ça, donc voilà. Et après la couleur, moi je suis pas un coloriste si tu veux, je maîtrise pas bien les couleurs, alors ça m'intéresse aussi de sortir un peu de mon couloir de nage quoi, qui est davantage sur l'écrit et des choses un petit peu noires comme ça. Donc là j'aime bien sortir de ça en prenant des risques, parce que c'est des risques qui sont très mesurés évidemment, c'est pas comme si tu étais yézidi en Syrie ou palestinien à Gaza quoi, tu vois, les risques sont mesurés là, ça va quoi, on va s'en sortir. sortir. Mais j'aime bien aussi travailler comme ça, en me disant, tiens, le rose, voilà, le rose, comment tu fous du rose dans un tableau, comment est-ce que tu mets ça, sans que ça fasse trop pop art, ou que ça fasse trop layette, ou que ça fasse trop, voilà. Donc, et donc ça, c'est vraiment, c'est des choses que j'aime bien faire, aussi des agencements de couleurs, aussi j'aime bien travailler comme ça, sous forme de série. Une série, il y en a une quinzaine comme ça, qui sont des, c'est du papier qui a été marouflé sur du bois. Et donc là-dessus, j'essaye de faire un geste par jour en fait. Chaque jour, j'essaye de faire une intervention, soit sous forme d'un pochoir, soit sous forme d'un trait, d'un dessin, d'une forme blanche qui apparaît, une sorte de petit nuage comme ça qui se déplace. Ça reste toujours à la limite des choses qui sont à la fois repérables. On voit que visiblement il se passe quelque chose, mais j'essaye aussi de le faire basculer dans quelque chose d'un petit peu plus confus, quoi, que ce soit, voilà. Et ce qui m'intéresse sur la série comme ça, c'est de dire quand est-ce que je m'arrête. Voilà, ça c'est vraiment, c'est la grosse question que se posent beaucoup d'artistes, hein, c'est le dernier geste.
J'ai envie de décrire ce que je vois. Donc là, il y a donc 9 peintures de Monou qui sont carrées. Et à chaque fois, il y a le même motif, mais agencé différemment. Donc, c'est un tableau qui a des bords blancs. Et à l'intérieur, il y a deux palmiers, un qui est plus détaillé que l'autre. Donc, un petit palmier vert, hein, dont on voit surtout les contours. Après, un palmier rouge, rose foncé, plus détaillé. Après, il y a un fond rose. Il y a un grillage bleu. Il y a un plan d'eau, peut-être. Enfin, en tout cas, un espace bleu qui est toujours coupé vers le bord. Après, il y a une grille plus petite, carrée, qui aussi apparaît sur chacun des 9 tableaux. Et c'est des points, donc une sorte de grille et sérigraphique. Et après, il y a aussi un fond orange qui est généralement en dessous de le plan bleu. Et puis, il y a aussi cette tache blanche qui semble toujours être posée à la fin. Donc ça, c'est une sorte de vocabulaire qui est décliné comme ça sur la série. On dirait presque que chaque jour, tu te dis, j'ai refait le tableau, mais tu ne regardes pas ce que tu as fait auparavant.
Quelque chose toi, tu es allemande, donc tu sais ce que c'est. On dit que c'est une langue agglutinante, où les choses qui viennent se mettre les unes derrière les autres, comme mm-hmm. ça. Donc la tache blanche, c'est le dernier geste, c'est ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir poser comme geste autour de ça, autour de cette articulation, de cet agencement, comme tu dis, l'agencement entre les formes. Mais voilà, ça sera soit une intervention en trait, soit une intervention en masse, soit une intervention en couleur, soit une intervention en écrit, je ne sais pas encore. Voilà. Mais là, pour le moment, j'en suis là. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'accumulation de gestes et plus ou moins formels, parce que quand même, les artistes plasticiens sont là pour faire de la forme. Hein. On n'est pas là pour faire ni de la philo, ni de la sociologie, ni de l'anthropologie, même si on se nourrit de tout ça, on est là pour faire des formes, donc, et pas forcément les expliquer d'ailleurs, on est là pour faire des formes. Et donc dans cette série de gestes-là, il y a ce nuage blanc qui est arrivé, cette forme blanche qui est arrivée, une forme molle.
Ça voilà. Pourrait être aussi un escargot.
Oui, ça peut être une limace, ça peut être, je ne sais pas, que ça pourrait être quelque chose de mou. Quoi, voilà. Et donc ça vient effectivement perturber le dessin, la peinture telle qu'elle était. Et donc de cette perturbation, je vais voir ce qui va ressortir. Si tu veux. Ça fait penser à ces incidents qu'il peut y avoir, notamment quand on écrit une phrase, on met un mot pour un autre, ou alors, tu sais, avec ces correcteurs automatiques sur les traitements de texte, parfois il y a un mot qui s'est écrit qui n'est pas celui que tu as écrit, et si tu le laisses, effectivement, ça a une incidence sur le reste de la phrase. Voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent, cette histoire de truc un peu random comme ça, de se laisser aller par le hasard dans une sorte de divagation poétique, je dirais, voilà.
Mais comment tu procèdes? Tu travailles au même temps tous les 9
oui,
tableaux?
Oui, j'ai fait tout avancer en même temps, voilà. Voilà, donc là, j'ai acheté par exemple cette grille qui est en fait une grille pour de peintre.
Quoi. Ah oui.
Tu vois, c'est des trucs pour enlever les gouttes de peinture. C'est une grille très simple. Donc ça, je me suis dit, ça va faire un super pochoir. Voilà, je me suis servi de ça pour faire cette forme-là. Quoi. Alors, après, je fais beaucoup de... Je vais beaucoup me... En fait, je fais... je vais dans les magasins de bricolage, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est les magasins de bricolage, je trouve ça fascinant, c'est comme, pour moi, c'est cadeau de Noël, quoi.
Oui, donc,
tu vois, un petit truc, une couleur, une forme, une tige en métal, enfin, tu vois, il y a des trucs qui peuvent amener, alors, je sais pas où je vais, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ça, c'est que je sais pas où je vais. J'ai pas de plan, j'ai pas de c'est tendu vers quelque chose qui serait plus une mise en danger de ce que je suis, de ce que j'ai envie de faire. Et c'est cette mise en danger là qui m'intéresse, parce que j'ai pas de plan très précis, j'ai pas de carnet de travail où je me dis tiens je vais d'un point à un autre point, je m'en fous, peut-être que ça va nulle part, peut-être que je vais faire une merde, mais ça me dérange pas si tu veux, voilà. Il y a quelque chose qui est dans cette sorte de, dans cette accumulation, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et alors après, ce que je te disais, c'était vraiment la question du dernier geste. Est-ce que Deleuze parle de ça, du dernier vers, du pénultième, de l'antépénultième, à partir de quand tu te dis, tiens, ça, c'est le dernier. Voilà, voilà, c'est intéressant dans les arts plastiques parce que ce dernier geste-là peut vraiment faire basculer les choses sur quelque chose qui ne te convient pas du tout. Donc il faut faire très attention à ça. Ce dernier geste, il est catastrophique, peut être catastrophique. Mais comment est-ce que toi, tu sais que c'est le dernier? Alors là, ça, c'est le mystère, ça, tu vois.
Est-ce que ça t'arrive de dire, voilà, c'est parfait, c'est... Alors là, j'arrête. Est-ce que c'est... Comment tu arrêtes un tableau? Cette série, par exemple, à un moment donné, tu vas l'arrêter parce que
Cette série, elle va s'arrêter. Ouais, elle va s'arrêter. Alors, elle peut s'arrêter aussi par un essoufflement, quoi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre aussi de la course sportive, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, on t'est essoufflé, tu t'arrêtes. Voilà. Donc, voilà. Mais ça peut aussi s'arrêter parce que tu trébuches, donc tu fais quelque chose qui te convient pas, et là ça fait basculer le travail dans quelque chose qui ne te convient pas. Donc après, sur la peinture, c'est toujours pas mal parce que tu peux mettre un coup de blanc et tu repars. Donc voilà, on peut toujours s'arranger avec des choses comme ça. Mais malgré tout, il y a ce. Alors quand est-ce que j'arrête? J'arrête en général quand je trouve que quand je peux être à court d'idées. Voilà, je suis à court de. Tu vois, c'est comme dans un dialogue, tu vois. Celui qui a le dernier mot, tu vois, à un moment donné tu sais plus quoi dire, donc voilà, ça s'arrête un peu par essoufflement, je dirais, voilà, parce que il y a des choses qui se voilà.
Ce que je trouve vraiment intéressant là, c'est que c'est pas si évident que ça de savoir que tu les travailles en même temps. Si je le verrais dans un musée,
oui,
par exemple aligné l'un après l'autre, je pourrais aussi bien me dire cet artiste a travaillé par mémoire. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un certain nombre d'éléments et à chaque fois ils sont réagencés.
Oui, oui.
Il y a quelque chose de l'ordre. Enfin, ce que je trouvais intéressant de ces 9 tableaux qui sont devant nous, qui sont same, same, but different. Enfin, il y a à chaque fois le même nombre d'éléments, ou à peu près, mais il y a plein de variations avec ces éléments-là. Mais c'est. C'est comme si c'était la même phrase à chaque fois dite autrement.
Oui, c'est un peu ça. C'est une manière de dire les choses différemment. Mais après, cette histoire de mémoire est intéressante. Je suis content que tu parles de ça parce que j'essaye d'être un artiste sans mémoire. Donc j'essaye de vraiment, chaque fois que je commence quelque chose, de me dire ce que j'ai fait avant c'était pas mal, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qui pourrait m'exciter, qui pourrait me donner envie de, voilà, donc qu'est-ce que je pourrais expérimenter, donc il y a cette idée que the best is yet to come. Moi j'aime beaucoup cette idée là alors je sais que c'est un peu stupide à 63 ans de penser ça, mais donc j'ai fait ma première exposition en 81, donc tu vois, ça fait 42 ans. Donc, mais malgré tout, je crois quand même qu'il y a des choses qui peuvent se faire comme une sorte d'épiphanie. Moi, je crois beaucoup à l'épiphanie dans le travail. Tu vois, il y a quelque chose qui apparaît parce que tu as fait quelque chose qui s'est produit dans le temps. Au moment où tu le faisais, il y a quelque chose qui s'est produit et qui fait que finalement, c'est là devant toi et tu n'y avais pas pensé avant, quoi. Donc être sans mémoire, c'est intéressant parce que ça permet aussi de travailler dans ce que j'aime, c'est-à-dire d'être dans une sorte de recherche. Il y a des artistes qui sont des chercheurs. Moi, j'aime bien chercher. Alors, parfois, ça va pas très loin. Hein. C'est au ras des plaintes des fois. Je foire fou, je cherche. Et ça me permet de me dire finalement. Même ce petit travail que tu fais, ce petit travail intellectuel que tu fais sur ton dessin, sur ta peinture, sur ton écrit, sur ton volume, c'est un petit travail intellectuel que tu n'as jamais fait. Voilà, donc j'ai fait une série, notamment cette série de maisons écroulées, donc de gravats, donc de dessins sur des gravats de maisons écroulées. Bon, c'est des choses que j'ai, voilà, ça, si tu veux, c'est un moment donné dans le temps, il s'est passé ça dans ma vie, j'avais envie de témoigner de toutes ces maisons qui se sont écroulées, donc de travailler autour de ça, de faire du dessin là-dessus, de la peinture et même du collage. Voilà, donc, mais ça c'est arrivé, ça arrivera peut-être plus. Voilà, je garde plus la mémoire de ça, je passe à autre chose. Voilà. Les artistes avec mémoire, c'est compliqué parce qu'ils font toujours la même chose. Donc, en plus de ça, ils répondent à une histoire de marché. Donc ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que sinon, tu vois, c'est infernal, quoi. Voilà,
J'aimerais bien revenir un peu à l'idée de la phrase qui se
Oui,
répète.
oui.
J'ai assisté à ta performance à la Chapelle Haute l'autre jour, c'est dimanche dernier. Donc on était devant un tissu, un
Ouais, un tissu à
paillette,
paillettes,
un tissu à paillettes, sur lequel tu avais dire, gravé de façon provisoire un dessin.
ouais. Oui, c'est ça.
Et moi j'étais là pour la fin de l'exposition et c'est à cette occasion que tu as effacé ce dessin
Oui, c'est ça.
et que tu as écrit fin sur ce tissu. Et il y avait une bande son qui
Ouais.
était déclenchée au début de la performance. Et là, il y avait donc aussi une forme de répétition très très riche, des tentatives d'être précis
Ouais,
sur un objet qui n'était pas nommé, mais on pourrait s'imaginer que c'est peut-être l'art. Et qui est peut-être une forme d'autoportrait, d'ailleurs, ce poème.
ça part d'une idée, ça part d'une petite phrase de Suran, un écrivain que j'ai rencontré quand il était venu aux éditions Fata Morgana, donc chez Pouy-Noroy. Et donc, bon, j'ai eu une grosse période où je lisais Suran. Voilà. Donc, Suran, il a bon, tout un tas de petites phrases. Il est célèbre pour ça, hein, pour ces petites phrases qui sont assez comme des punchlines, quoi. Voilà. Et il y en avait notamment une phrase qui m'a intéressé sur les adjectifs, où il disait qu'effectivement, les adjectifs, je ne sais pas comment il le disait, je te le dis de mémoire comme ça, perturber le constat des choses. Voilà. Et quand on doit parler de quelque chose, on dit c'est une maison, mais on dit si on dit c'est une belle maison ou c'est une grande maison, d'un seul coup l'adjectif infléchit les choses. Ça donne une indication. Et donc l'adjectif est là pour à la fois préciser, mais à la fois figer les choses. Voilà. Et donc là, c'est un travail d'écrit que j'ai fait. J'ai relevé des adjectifs dans tout ce que je lisais pendant 2 mois. Et donc ce sont des adjectifs que j'ai accumulés. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce que ça peut faire l'objet d'un texte? Et alors j'ai essayé d'agencer tous ces adjectifs les uns à la suite des autres. Et donc ça fait l'objet d'une bande son. Voilà. Donc c'était l'idée de parler de comment est-ce que tu parles d'un travail artistique. On dit toujours c'est beau, c'est grandiose, c'est oh, c'est immense, c'est spectaculaire. Donc voilà. Donc comment est-ce que tu parles d'un travail artistique sans employer d'adjectifs? C'est très compliqué. On est coincé. Donc là, il y avait une sorte de boursouflure, c'était boursouflé d'adjectifs, ça partait un peu dans tous les sens. Et l'idée, c'était sur ce tissu-là, c'était d'effacer effectivement ce que j'avais fait, parce que j'avais activé la pièce, là je l'ai désactivée, et donc d'être dans une sorte pas d'explication, mais en tout cas de mise en rapport entre ce que j'étais en train de faire, qui était un aveu d'échec. Hein, finalement, j'ai effacé quelque chose, un peu comme un repenti, comme tu vois, comme j'ai pensé à ces ardoises magiques aussi qu'on avait quand on était enfant, où on pouvait effacer les choses. Donc là, il y a quelque chose qui est une sorte d'aveu d'échec. Et puis ce texte qui disait le contraire, qui disait que j'aimerais bien que ce soit amoureux, j'aimerais bien que ce soit brillant, que ce soit rond, que ce soit séduisant. Et tout ça, il y avait une sorte de contraste qui m'intéressait. C'est entre un geste qui est un geste d'échec et un texte qui disait le contraire. Voilà. Ce contraste m'intéressait. Ouais.
Et est-ce que ça t'arrive souvent de associer une bande son à un geste pictural?
Alors ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de... Oui, ça m'arrive assez souvent en fait de faire ça, ouais. Ça m'arrive assez souvent. Ouais. Alors je fais aussi de la musique, donc c'est des choses qui sont un peu dans l'idée du spoken word, donc où il y a des textes qui sont lus sur des boucles de guitare électrique, ça je fais ça assez souvent, et c'est très souvent lié à des choses qui se passent aussi plastiquement. Alors après, moi ce qui m'intéresse après, c'est d'agencer tout ça. Voilà. Comment est-ce que tu fais quand tu as un son, un texte, une musique et un geste, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que ça peut donner du sens et ça peut faire un monde, parce qu'en fait l'idée c'est de faire un monde. Faire un monde c'est pas facile, on a tous des morceaux, des fragments, mais faire un monde c'est pas facile, mais c'est souvent associé, oui. La gestuelle du travail plastique est associée aussi au son que j'entends, aux mots que je dis, à la musique que j'écoute, oui, que je fais aussi, parce que je suis aussi musicien.
Alors, tu viens de me dire que le geste pictural est renseigné par le son.
Je ne sais pas dans quel sens ça va, en fait. Parce que moi, j'aime bien avancer, tout avance en même temps, en fait. Mm-hmm. Tu sais, mm-hmm. Je travaille beaucoup sur la notion d'archive, j'accumule des choses. Ça peut être un geste, ça peut être une série de tableaux, de dessins, de peintures, ça peut être un son, ça peut être une musique, ça peut être un texte. Tout ça avance et puis à un moment donné, dans ces archives-là, je me dis, tiens, comment est-ce que j'assemble ? Le travail de d'art plastique, c'est des notions qui sont des notions de couleur, d'échelle, d'agencement. Voilà. Comment est-ce que tu agences les choses entre elles ? Et une fois que j'ai ça dans mes archives personnelles, je me dis, est-ce que ça peut faire un monde ? Est-ce que ça peut faire pièce ? Alors, bien souvent, c'est compliqué parce que ce sont parfois, ce sont des propositions qui se repoussent. Parfois, c'est des propositions qui se complètent. Donc, il faut essayer de travailler un peu. Je fais un peu de vidéo aussi. Donc, tu vois, je fais vraiment pas mal de choses. Et ce qui fait que ça avance un peu comme ça, un peu de manière sournoise, tu vois, je ne sais pas bien. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, voilà, j'ai ce tas-là, j'ouvre ma boîte à outils, j'ai ce tas-là. Et qu'est-ce que je fais avec ça, voilà. Et donc, je peux sortir deux, trois éléments qui peuvent peut-être s'assembler entre eux. Et voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, quoi.
Et c'est le moment de l'exposition qui fait que tout s'assemble ?
Oui, c'est le moment de l'exposition. C'est le moment aussi de moment de lecture, comme ce qui s'est passé dimanche, où j'ai assemblé effectivement un geste avec un texte. Et j'ai pas mis de musique cette fois, mais ces moments-là qui sont des moments où les choses peuvent prendre place, quoi, tu vois. Sinon c'est dans une boîte à outils, sinon toi c'est dans une caisse de manière informe comme ça. Je sais pas bien, mais voilà, c'est à ce moment-là que les choses peuvent prendre du sens. On a la chance d'avoir une galerie ici qui est un lieu d'artiste, hein, ce que en bon français on appelle un artist run space. C'est un lieu d'artistes, hein. C'est un lieu qui est géré par des artistes, on est trois artistes à gérer ce lieu-là, donc on a cette chance-là de pouvoir effectivement montrer de temps en temps les boulots et de pouvoir dire, tiens, c'est un état des lieux, quoi. Tu fais un état des lieux de tes travaux à toi, tu dis, tiens, voilà, sur ce week-end-là, je vais montrer un petit peu ce que je fais, et on en discute, bien souvent on en discute. C'est l'intérêt des lieux d'artistes, c'est le contraire des galeries où effectivement il y a un rapport marchand. Là, les lieux d'artistes, on est là pour discuter, pour essayer d'avancer, pour créer du lien. Voilà, c'est ce qui m'intéresse.
Moi, j'aimerais bien t'entendre un peu sur tes débuts aussi. Ouais. Comment tu es arrivé à l'art ? Pourquoi ce choix et comment il s'est fait ce choix ?
Ah oui, oui, oui. Alors moi, je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai fait la fac d'art plastique et lettres et art plastique. Donc, il s'est fait d'abord par l'écrit, hein, parce que moi, je viens de l'écrit, j'ai toujours écrit, je suis édité, je continue à écrire pas mal. Et puis j'ai eu la chance de travailler à l'école des Beaux-Arts de Sète, puisqu'ils avaient besoin d'un bibliothécaire. Moi j'ai une formation de bibliothécaire aussi. Donc je remplissais les cases. J'étais à la fois bibliothécaire et j'avais ce diplôme de creative writing. Donc tu vois, je correspondais vraiment à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là que je suis allé travailler à l'école des Beaux-Arts de Sète. Qu'on m'a donné un enseignement avec les étudiants, et puis après que j'ai pu moi proposer d'autres enseignements, notamment avec des pratiques amateurs, donc dans ce dont on parlait avec des adultes, parce que moi il y avait une notion de service public qui m'intéressait. Je voulais à tout prix que ce soit pas les Beaux-Arts, ce soit pas une sorte de bulle comme ça, un peu éthérée, inaccessible. Je voulais vraiment qu'on soit ancré dans la société, dans le tissu social. Ça m'intéressait. Et les choses se sont faites naturellement à partir de l'écrit. Il y a eu de l'écrit, puis du dessin, il y a eu des micro-éditions. Puis après les micro-éditions, il y avait plus que la peinture parfois ou que le dessin. Et puis parfois l'écrit revenait. Et puis comme j'ai toujours été musicien et j'ai toujours fait de la musique, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas relier tout ça avec de la musique. Puis après j'ai commencé à faire des spoken words un petit peu partout, voilà. Donc, mais ça s'est fait, c'était presque, c'est pas un vouloir quoi, tu vois, j'ai l'impression que c'était une sorte de vague, j'étais sur une sorte de petite vague, je me disais tiens avec mon surf je vais aller là, et puis je suis allé là quoi, tu vois. Et pas de... Mais effectivement le fait d'avoir travaillé aux Beaux-Arts, ça a été pour moi un déclencheur, parce que d'un seul coup, j'ai commencé à la médiathèque ici, donc en tant que jeune bibliothécaire, tu vois, dans les années 80. Je commençais à faire des expos, mais le fait de travailler après aux Beaux-Arts, quelques temps après, ça a fait le lien entre tout ça, quoi, tu vois.
Je te remercie pour ce entretien.
Mais c'est un plaisir, Nadia. C'est un plaisir. Mmh.
Merci d'avoir été à l'écoute de Grammaire Fantôme. À la semaine prochaine!
Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Une émission Panaudia Lichtig.